retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies.
Comme tout le monde, hein, j'ai connu des moments où j'étais dépressif, hein, c'est-à-dire des moments où, j'arrivais pas à me motiver, j'arrivais pas à travailler, et je dois dire que je me suis vraiment abandonné à ces tunnels fictionnels, et c'était finalement la seule manière d'éviter d'avoir à penser à moi-même.
Dans son ouvrage « Vide à la demande », notre invité propose de définir la série comme un programme de fiction mettant en scène des personnages récurrents, reproduisant ou déployant d'épisode en épisode un même scénario, un même schéma narratif. Il nous rappelle que les séries peuvent être formulaires, comme Columbo, où chaque épisode se savoure indépendamment, ou feuilletonnantes à l'image des incontournables qui nous tiennent en haleine. Ce sont ces dernières véritables pièges narratifs qui nous intéressent ici. Parce que qui parmi nous n'a pas déjà sacrifié des heures, des jours, voire des mois dans ces labyrinthes fictionnels à suivre les péripéties de héros fictifs au point de perdre toute notion du temps? Depuis le confinement, les plateformes de visionnage visionnaires se sont mises à déverser un déluge d'arches narratives et les abonnements se sont mis à grimper selon un scénario bien connu, celui de l'offre et de la demande. Sauf que la marchandise, ici, à en croire notre brillante invitée, c'est le vide. Aujourd'hui, nous sommes des millions à consacrer notre temps que l'on croit libre à des récits savamment concoctés par des experts en captologie. Ne vous inquiétez pas, on va en parler, dont l'unique mission est de nous rendre accros dès les premières secondes. Et notre invité n'échappe pas à la règle. Agrégé et docteur en philosophie, il est aussi un sériephile repenti, comme il dit. Les séries et surtout les plateformes qui les accueillent sont conçues pour générer des comportements addictifs qu'elles ont en commun avec le smartphone, les réseaux sociaux et les jeux vidéo, écrit notre invité dans sa spectaculaire critique des séries, à laquelle j'adhère en partie depuis quelques temps déjà. Les séries sont devenues une drogue sur mesure qui épouse parfaitement les courbes statistiques de notre époque. Époque marquée par un manque de temps, mais surtout de sens. Notre activité favorite au XXIe siècle est passive. Elle consiste à tuer le temps face à des écrans plats, comme le contenu qu'ils diffusent. Mais si les écrans et ce qu'on y projette sont un des maux de ce siècle, le fait de binger en est son symptôme le plus flagrant. Inspiré du binge drinking, le binge watching nous invite à consommer sans modération. Il existe même des catégories séries à binger sur les plateformes, que l'on peut vraisemblablement traduire par « vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de vous gaver ». Parce que derrière ce mot, il y a tout ce qu'on connaît de l'addiction, craving, perte de sens, dépression, déni, hallucination, paranoïa, honte, plaisir coupable. Les lendemains de marathon ressemblent souvent à des lendemains de cuite, mais le sujet est bien plus vaste que la série elle-même et le philosophe niçois en fait assez exhaustivement le tour. Il se questionne notamment sur la fonction qu'ont les séries dans nos vies. Que cherchons-nous à faire? Ou plutôt, que cherchons-nous à fuir? Pourquoi faut-il absolument regarder cette création que tout le monde encense? Pourquoi faut-il absolument finir une saison médiocre juste parce qu'on l'a commencé? Pourquoi aller juste un petit dernier, après j'arrête? La vie est absurde et les séries nous permettent de l'oublier. Nous préférons de loin un logique mensonge à une absurde vérité. Se plonger dans les histoires qui ne sont pas les nôtres permet donc de faire passer le temps, l'angoisse et la pilule. Et si, comme le disait Gilles Deleuze, la philosophie sert à lutter contre la bêtise, nous allons tenter de nous affranchir un peu de la nôtre et peut-être aussi de celle des autres, car nous sommes tous pris dans cet engrenage narratif et s'il est presque trop tard pour en sortir, nous pouvons tout de même nous demander si nous préférons contribuer au problème ou à la solution. Alors, merci Bertrand Cochard pour ce diagnostic rigoureux et sans concession qui va nous permettre, je l'espère, de réveiller un peu quelques consciences. Et pardon pour cette introduction interminable, mais nécessaire, il me semble. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour cette belle introduction.
Je te promets que je vais te laisser parler maintenant.
Ok, très bien. Je suis prêt à parler.
Ouais, tu l'as compris, j'ai aimé ce livre. Voilà, critique des séries, Vide à la demande, qui est sorti aux éditions
L'échappée.
L'échappée. Très belle couverture, très beau livre. Il a une consistance parfaite. Il nous permet de nous mettre dans le bain et en même temps de nous poser les questions. J'ai l'impression que tu drives quelque chose et en même temps, ça, enfin, je trouve qu'il fait un effet miroir assez passionnant, mais que tu décris aussi pour les séries, on va en parler. Est-ce que tu peux nous décrire l'addiction comme tu le souhaiteras?
Oui, je peux essayer. Je crois qu'il y a beaucoup d'invités qui ont tenté de donner une définition. Alors, il y a eu des définitions cliniques, il y a eu des définitions existentielles, psychologiques. Donc, j'aimerais bien proposer une définition un petit peu décalée et proposer une définition de l'addiction sociétale ou critique, en disant que l'addiction, c'est maintenant un mode de consommation qui est non seulement encouragé, mais produit par la société spectaculaire marchande ou, disons, la société consumériste. Alors, encouragé pourquoi? Parce que, enfin, bon, c'est assez évident de le constater. Il suffit de voir qu'il y a des grands messes de l'addiction, comme le Black Friday, où les comportements compulsifs sont encouragés. Mais peut-être plus grave et plus dangereux, plus diabolique, l'addiction, elle est produite aussi par les technologies numériques qu'on utilise. Et ça, on le voit quand on étudie notamment les algorithmes qui structurent les réseaux sociaux, puisque on sait désormais que ces algorithmes vont générer chez le consommateur un besoin compulsif de sans cesse y revenir. Donc en activant artificiellement le circuit de la récompense, en générant de la dopamine. Donc je dirais que l'addiction, c'est désormais devenu un mode de consommation et quelque chose qui correspond très bien aux exigences productivistes, consuméristes de la société actuelle que je tente modestement de combattre.
Ouais. Déjà avec ton téléphone, ça c'est merveilleux. Moi j'ai enfin quelqu'un devant moi qui n'a pas de smartphone. Je t'avoue que j'y pense tous les jours et je ne passe pas le cap. Je ne peux pas, je m'en sers pour tout. Je lis des livres audio, je me déplace avec et je paye avec. C'est vraiment, je trouve que c'est un gros gap de renoncer à ça.
Oui, alors je veux pas faire le faux modeste, mais ça a été plus facile pour moi, ça a été simple en fait de pas avoir de smartphone parce que j'en ai jamais eu. Enfin, j'en ai eu pendant peut-être 3 mois il y a 10 ans.
Ah ouais.
Et donc j'ai jamais été habitué à disposer d'un appareil qui s'immisce dans mon quotidien. J'ai jamais eu d'application permettant de me faciliter la vie.
Ah ouais.
Et je pense que le rejet du smartphone aurait été plus difficile si j'avais dû le faire il y a quelques années, il y a 2-3 ans.
C'est vrai que c'est un objet auquel je pense de deux façons, c'est-à-dire j'en ai besoin, il m'est utile et indispensable, si je suis honnête, et je le déteste.
Oui. Tu sais combien de temps tu regardes ton téléphone par jour en moyenne?
Ouf.
200. 200 fois par jour. 200 fois par jour, ça veut dire, parce qu'on disait que les technologies numériques, elles étaient là pour capter notre attention et générer des comportements addictifs, ça veut donc dire que 200 fois par jour, il y a ce qu'on peut plus appeler un outil. Il y a un dispositif technique qui va venir capter ton attention, te faire sortir de l'attention longue qu'on appelle la concentration, et donc qui va te faire rentrer dans un régime attentionnel qui est tout à fait néfaste pour ton cerveau et qu'il faut, je pense, à nouveau désormais combattre. Enfin, en tout cas, il faut alerter en fait au danger de la surexposition aux écrans, et c'est aussi pour ça que je, si tu me permets de le mentionner, je milite au sein d'une association qui s'appelle Lève les yeux et qui fait de la sensibilisation à la déconnexion aux écrans.
À la fin de ton livre, d'ailleurs, tu donnes cette solution des 4 pas,
ouais,
qui est au moins d'essayer de pas regarder son téléphone, ses écrans, le matin, en mangeant, avant de dormir.
Oui.
C'est quoi, il y a quatre moments.
Ah ouais, c'est ça.
Alors, les 4 pas de quelqu'un, je retrouverai dans le livre.
Oui, c'est les 4 pas de Sabine Duflo,
ouais.
Et c'est donc pas d'écran le matin, pas d'écran pendant que tu manges, effectivement, pas d'écran dans la chambre à coucher.
Ah oui.
Et pas d'écran avant
de dormir,
ouais,
exactement.
Ouais.
Alors, il se dit justement que toi, tu as passé 159 jours de ta vie engloutis par des œuvres sérielles qu'il ne fallait surtout pas manquer. Quelqu'un, elle a dit dans une interview que tu as donnée, c'était pour un reporter avec Terre, TE2RE. Hein. Tu cherchais quoi déjà, toi? Quel est ton rapport à la fuite, à la drogue, au vide? Est-ce que, bon, on l'a vu là, tu n'as pas de smartphone et ça déjà, tu ne te fais pas happer par cela. Est-ce que tu as eu déjà des choses qui ont pris justement ton temps, ton attention et ta vie en fait?
Et oui, évidemment, comme tout le monde, hein, le livre, c'est aussi un livre que j'écris à partir de mon expérience de spectateur. Et j'ai constaté individuellement qu'il y avait un rapport inversement proportionnel entre ma tendance à regarder des séries et mon bien-être. Ça m'évoque d'ailleurs, il y a un chercheur que je cite beaucoup dans le livre qui s'appelle Alain Ehrenberg et qui a écrit La fatigue d'être soi, qui est une petite merveille ce livre. C'est vraiment quelque chose qui change complètement ta manière de concevoir les phénomènes sociaux actuellement. Et à un moment, Alain Ehrenberg, il dit que le remplissage addictif, c'est l'autre face du vide dépressif. Mmh. Et moi, comme tout le monde, hein, j'ai connu des moments où j'étais dépressif, hein, c'est-à-dire des moments où j'arrivais pas à me motiver, j'arrivais pas à travailler, et je dois dire que je me suis vraiment abandonné à ces tunnels fictionnels parce que c'était la seule manière d'oublier mes soucis de la veille, du jour, du lendemain, et c'était finalement la seule manière d'éviter d'avoir à penser à moi-même. Et j'en parle dans le livre de ça. Parce que il me semble que les séries nous permettent, peut-être mieux que n'importe quel autre produit culturel, nous permettent justement de nous décharger un temps, au prix de la culpabilité, parce que,
hein,
mais de nous décharger un temps du poids insupportable de la responsabilité individuelle.
Ouais, c'est ça. Et tu dis produit culturel, hein, tu précises, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres produits concrets qui, eux aussi, servent à s'échapper de soi et à ne pas avoir à se responsabiliser, en fait, tout simplement. En fait, quel est l'intérêt? Parce que tu dis, ça m'empêchait de penser à moi ou de penser par moi-même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser, de réfléchir, de penser? Parce que j'ai l'impression que les gens, on appelle ça les imbéciles heureux. J'en connais beaucoup, des gens qui ne se posent pas de questions et qui sont heureux. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin? Je sais que la philosophie sert à ça. Moi, j'en ai besoin. Mais pour les auditeurs, les gens qui écoutent, qui n'ont pas envie de se poser de questions aussi, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'empêcher et faire diversion de soi, en fait?
Déjà, je commencerai par dire que la philosophie, c'est pas une activité qui est prioritairement destinée à te rendre heureux. Enfin, Kant disait que le bonheur, c'était un idéal de l'imagination. Rejoignant Pascal, hein, de ce point de vue-là, donc c'est l'imagination qui met le prix aux choses, et quand la raison s'en mêle, elle a plutôt tendance à déconstruire les raisons d'être heureux. Donc je commencerai par dire que voilà.
Donc la philosophie, c'est la raison.
La philosophie, c'est une tentative pour analyser conceptuellement la réalité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut quand même le faire? Parce que, moi j'ai eu des expériences philosophiques majeures au moment où tu arrives en fait à un niveau de problématisation qui te permet d'avoir une appréhension plus juste de la réalité. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire, mais moi j'ai l'impression que quand on le fait, on fait quelque part son métier d'être humain.
Bravo. Ouais.
Je crois.
C'est une question difficile. Non, à laquelle
et
c'est
t'as vu,
très
j'ai
difficile.
Dit métier et pas travail, parce que
oui,
je propose
contre.
Une critique du travail.
Exactement, voilà. On est
j'ai
contre le
attention.
Travail.
Ouais.
Audiard, lui, parle de chloroforme idéologique. David Buxton évoque une idéologie figée. Et Eva Illouz, que j'aime beaucoup, j'avais lu Apicratie, je connais pas les deux autres, hein, je le dis, c'est dans ton livre. Elle décrit les séries comme des marchandises émotionnelles, le spectacle en fait. Hein. Quel lien entre la série et la politique, cette espèce de totalitarisme un petit peu, ou le capitalisme? Quel lien entre, et la philosophie tout simplement, quel lien entre la série et ces pensées-là?
Ouf. Alors, c'est dur. C'est dur parce que, en fait, quand on critique les séries, la difficulté, c'est qu'on est confronté à un univers qui est quand même terriblement hétérogène. Et donc, à partir du moment où tu vas dire, bah, par exemple, telle série véhicule telle idéologie, on te trouvera toujours un contre-exemple pour dire oui, mais il y a telle série qui fait contrepoids, etc., etc. Simplement, je pense qu'il y a quand même dans les séries des formes d'idéologie diffuse que je tente d'analyser dans mon livre, notamment dans le chapitre 4, et notamment une forme d'idéologie que je trouve particulièrement néfaste, tu en as déjà beaucoup parlé dans ce podcast, qui est celle du développement personnel, et qui consiste à donc responsabiliser l'individu et lui dire que son bonheur ne dépend finalement que lui-même, ou plus précisément de son aptitude à changer son récit. Comme si, en fait, le rapport à la réalité, le rapport à soi, le rapport aux autres, et c'est simplement une question de narration. Et ça, je trouve qu'on le retrouve de manière très forte dans les séries. Donc, j'invite les auditeurs à le faire. Regardez avec ces lunettes-là. Vous verrez que très souvent, dans les séries, vous aurez cette idéologie qui est promue. Et bon, moi, cette idéologie, je la combats parce que je la trouve profondément non philosophique, précisément pour la raison que j'ai donnée auparavant, à savoir l'idée que la philosophie, c'est plutôt une analyse conceptuelle qu'elle propose de la réalité et pas une analyse narrative. L'acte de naissance de la philosophie, c'est même un acte d'émancipation à l'égard des récits. C'est-à-dire que, ce que je cite également
c'est
dans le livre...
La caverne de Platon.
Alors ouais, il y a la caverne de Platon, et même un tout petit peu avant, il y a le poème de Parménide. Et donc tu vois, le poème de Parménide, ça commence comme une histoire. Donc, t'as un type sur un chemin, il y a des déesses, etc.
Mais en quelle année, juste pour avoir des notions?
Là, on est pré-socratique, on doit être au 6e siècle avant Jésus-Christ.
D'accord, Parménide.
Et donc Parménide, qui est un des pères de la philosophie, commence son poème dans le registre du mythe. Et puis, à un moment, il va dire une phrase qui ne raconte plus rien. Et cette phrase, c'est...
Être, ah oui, je...
L'être est, le non-être n'est pas.
Ouais.
Et ça, c'est un trou. C'est vraiment un trou dans l'histoire de la pensée, parce que peut-être pour la première fois, il y a un penseur qui a proposé, pour rendre compte du réel, une analyse non mythologique, non narrative de la réalité. Bref, il donne naissance à la philosophie. C'est pour ça que, face à cette espèce d'inquiétante progression du récit et de la catégorie de récit dans toute la vie sociale, l'intimité, la politique, l'entreprise, etc. Mmh. Je pense qu'il est important d'opposer un discours philosophique en rappelant qu'il y a aussi un point de vue conceptuel qu'on peut aborder sur la réalité. Et ce point de vue conceptuel nous enseigne que les récits ne soignent pas tout. Ça,
alors,
c'est certain.
C'est fou parce que c'est très proche de la spiritualité dans le sens où, aujourd'hui, dans la spiritualité qui part du développement personnel à la base, hein, on ne va pas se mentir, enfin, elle ne part pas de là, mais c'est le développement personnel reprend cette idée-là que l'ego, c'est celui c'est le moi-histoire qui se raconte une histoire. Et en fait, là, Parménide, on a une idée de nouveauté, de quelque chose qui ne va pas prendre en compte tous les récits de tes grands-parents, de ta mère, de tes voisins, de ce qu'on attend de toi. C'est nouveau.
Oui.
Il n'y a plus, en fait, une continuité avec quelque chose qu'on se répète et qu'on ressasse et qu'on réinvente tout le temps.
Exact. Merci, tu m'as bien lu. Non, et plutôt que passer par Parménide, là, je passerai par Platon, comme tu m'as
invité à le faire. J'aimerais bien que tu l'expliques bien, parce que je trouve que cette histoire de l'allégorie de la caverne, tout le monde en a entendu parler, mais en fait, les gens n'ont pas vraiment, et moi, la première, n'avaient pas vraiment compris.
Ok. Et est-ce que tu veux que j'explique en deux mots ce que c'est que l'allégorie de la caverne?
Carrément, oui.
Ok. Donc c'est un texte qu'on trouve dans le livre 7 de la République de Platon, et comme on le sait bien, le livre 7 arrive après le livre 6. Ça a l'air con comme ça, mais c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que dans le livre 6, Platon présente sa théorie de la connaissance, et donc la théorie de la connaissance de Platon, c'est une théorie qui nous dit il faut finalement s'émanciper d'un rapport sensible à la réalité, donc cesser d'appréhender la réalité par l'intermédiaire de nos sens, au profit d'un rapport intelligible, c'est-à-dire commencer à appréhender la réalité, non pas par les sens, mais par la pensée. Et comme Glaucon, l'interlocuteur de Socrate, comprend pas exactement ce que Socrate veut lui dire, Socrate passe par une histoire. Il lui dit, imagine des prisonniers au fond d'une caverne qui ont le cou maintenu par de solides chaînes, qui voient des ombres qui sont projetées sur une paroi et qui n'ont jamais connu ça que toute leur vie. Et évidemment, ils vont prendre ça pour le réel.
Et là, on voit directement l'écran de cinéma, de télé, de tout ce que... Les ombres projetées sur un mur.
Voilà, exactement. Et donc, à un moment, Platon dit, imagine qu'on doit forcer, il va y revenir, un prisonnier à se libérer, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il a l'attention qui est captive. Hein.
On le force à se libérer, c'est merveilleux.
On le force à se libérer, et puis donc il va sortir de la caverne, il va voir que tout ça, c'était que des images, et il va voir la réalité telle qu'elle est. Donc, en fait, l'allégorie de la caverne, son sens premier, c'est de dire... Pour véritablement connaître le réel, il faut sortir d'un rapport sensible. Et je vais prendre un exemple tout con. C'est un exemple qu'on trouve dans une chanson des Beatles qui est « The Fool on the Hill ». Et « The Fool on the Hill », le refrain est hyper platonicien. Donc, t'as « The Fool on the Hill sees the sun going down », donc voit le soleil se coucher, « but the eyes in his head see the world spinning round ». Alors, pourquoi est-ce que c'est très platonicien? Parce que « The Fool on the Hill », il voit deux choses. En fait, il a deux rapports.
C'est quoi, c'est le fou
Le fou sur la colline.
Sur la colline.
Il a deux rapports à la réalité. Il voit le soleil se coucher. Ça, c'est ce que les sens lui indiquent. Mais le soleil, il tourne pas autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mmh. Donc, dans la caverne, tu vois le soleil qui tourne autour de la Terre et la Terre qui est plate. Donc ça, c'est ce que tes sens te disent de
Bien
la
sûr.
Réalité.
Oui. But the la eyes, vue, voilà. La vue notamment.
Exactement. But the eyes in his head. Donc là, les yeux de son esprit.
Et donc là, c'est
see
le troisième
the world
œil.
Spinning round. Ouais. C'est-à-dire, il sait en fait que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et tourne sur elle-même. Et donc voilà, en fait, la caverne, c'est ça. C'est-à-dire sortir d'un rapport sensible à la réalité pour penser cette réalité de manière conceptuelle et rationnelle.
Déjà, il faut sortir. Donc, c'est-à-dire, il faut vivre la vie plutôt que de la regarder sur un écran, déjà.
Oui, déjà. Après, moi, ce que je dis dans mon livre, c'est que finalement, je me demande, j'essaie de réinterpréter l'allégorie de la caverne, et je me dis, ok, qu'est-ce qui nous maintient dans la caverne? Platon dirait, ce sont les images, parce que ce sont les ombres
le
projetées
récit.
Sur la paroi.
C'est le récit.
Et ouais, moi, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que ce qui nous maintient dans la caverne, ce sont pas vraiment les images, parce que une image en elle-même, elle est pas captivante.
Bien sûr.
C'est une image en tant qu'elle est insérée, engagée, tissée, tu vois, dans une trame narrative. Et finalement, ce qui nous maintient dans la caverne et qui fait qu'on fait pas la lumière dans notre caverne intérieure, c'est-à-dire qu'on se tourne pas vers la pensée, ce qui fait qu'on est maintenu dans la caverne, c'est en fait les récits dominants dans lesquels on accepte de projeter, séquencer et construire nos vies. Donc moi je donne le couple, l'entrepreneuriat de soi, la carrière, tout ça ce sont des séquences narratives.
C'est sociétal, hein, je veux dire, à chaque époque c'est récit.
Ouais.
Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense que voilà.
Contes de fées, déjà, tu parles même de devoir instruire les nounous en premier.
Oui.
C'est-à-dire, c'est vrai qu'on raconte dès notre enfance des récits qui nous attachent.
Oui.
Et c'est vrai que l'addiction première, elle est à ces pensées limitantes qui sont, je m'identifie à des récits qui à la base ne sont pas nous, quoi.
Exactement. On trouve encore ça chez Platon. C'est fou. Hein. Enfin, tu vois, c'est quand même. Moi, je trouve ça hyper émouvant. Enfin, tu vois, quand t'as la République entre les mains. Le texte, il a 2500 ans et il nous parle encore.
Ouais.
Ça a l'air bête comme ça, mais c'est quand même assez émouvant, je trouve. Et effectivement, à un moment, Platon, dans La République, dit un truc un petit peu bizarre. On s'est un peu moqué de lui pour ça, mais il dit « Dans la cité idéale, il va falloir qu'on éduque les nourrices. » Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et bah oui, il faut éduquer les nourrices, parce que les nourrices, oui, ce sont celles qui...
Ouais, mais
c'est
les nounous, non, c'est hein. Pas pareil, nourrices, c'est tout
ce sont qui... Ce sont elles qui racontent les histoires aux enfants. Et Platon dit le problème des nourrices, c'est qu'elles racontent des mythes. Et le mythe, bah par exemple l'Iliade ou l'Odyssée, est pas transparent, c'est-à-dire que tu peux l'interpréter de tout un tas de manières. Et en fait, ce que Platon dit, c'est si on doit éduquer les nourrices, c'est qu'en fait elles transmettent des histoires, elles transmettent des mythes aux enfants, mais on n'est pas tout à fait sûr de la manière dont ils vont les interpréter. Or, la société, elle se structure autour de l'interprétation des mythes et des valeurs communes qui sont véhiculées par les mythes. Et donc peut-être qu'un des problèmes actuels autour des séries, c'est qu'elles nous font baigner dans un environnement, dans un écosystème narratif, mais quant aux outils qui nous permettent d'interpréter ces récits et leur manière de séquencer nos vies, peut-être que là, on aurait besoin d'éducateurs de nourrices. Moi, j'ai pas envie d'être éducateur de nourrices, hein,
mais tu veux dire que si tu es à la base éduqué et que tu as fait le travail, le boulot avant comme toi, tu peux regarder des séries. En fait, toi, t'as le droit. Ouais. Que tu te le fais pas prendre au piège.
Mais bien sûr que si, comme tout le monde, je me fais prendre au piège.
Donc c'est évidemment. Même. Est-ce que c'est vraiment la peine d'éduquer? Je pense que là où tu as raison, c'est que en fait, au lieu de rentrer dans le débat, est-ce que la série sert à quelque chose? Est-ce que j'ai les outils pour la regarder? En fait, tout ça, c'est pareil que moi quand je me pose la question est-ce que boire c'est utile? Est-ce que j'ai les outils pour arrêter de boire? En fait, j'ai arrêté de boire. Et c'est tellement plus simple.
Oui.
Et je pense que là où tu as raison, c'est quelque part, au lieu de se poser les questions, après on va dire, oui, en fait, tu te laisses plus mettre de pouvoir toi-même arrêter une série. Moi, je préfère arrêter de regarder des séries. Bon, ça, c'est mon truc.
Ouais, alors, mais tu vois, ce que je dis dans la conclusion, c'est que, quelque part, j'hésite presque à dire arrêter de regarder des séries. Et pourquoi j'hésite à dire ça? Parce que ça sous-entendrait que finalement, le fait de regarder de manière compulsive et addictive des séries, c'est une question de responsabilité individuelle.
Et là, tu rentres dans le développement personnel.
Voilà. Et moi, ce que j'explique dans le livre, c'est que, en fait, la forme série, l'activité consistant à regarder des séries ou à se mettre devant un écran de manière générale, c'est une activité, en fait, qui est parfaitement conçue pour s'adapter à nos modes de vie. Et ça veut donc dire que on peut critiquer les séries, certes, mais en fait, on doit faire porter la critique sur les conditions de vie qui rendent nécessaire le fait de regarder des séries.
Bon, on va en parler parce que, en fait, d'abord, il y a une critique du travail. C'est-à-dire que pour toi, on travaille trop, c'est pour ça qu'on a besoin des séries. Ouais. Ce temps libre, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de termes, je pense, à expliciter quand même. Est-ce que tu veux nous dire un mot, justement, sur ce que tu penses du travail, sur le fait qu'aussi, les charges mentales aujourd'hui qu'on a. Bon, le travail aujourd'hui est devenu assez compliqué parce qu'il y a une porosité, comme tu le dis très bien, entre le temps de travail et le temps de loisir, parce que en fait, on rentre chez nous avec cet objet de malheur qui nous permet de regarder nos mails toutes les 10 secondes. Donc, avant, on séparait vraiment les deux, là, non. Donc, c'est peut-être ça aussi, à un moment donné, on a besoin de déconnecter. Mmh. La série, pour moi, elle a que ce rôle-là.
Elle a ce rôle-là, c'est certain. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première, la plus évidente, c'est que si on se tourne massivement vers des activités qui sont des activités, somme toute, passives, c'est-à-dire qui ne vont pas réclamer beaucoup d'énergie et d'attention. Alors voilà, moi, je me suis fait taper sur les doigts parce qu'on dit oui mais quand même l'expérience du spectateur, en fait on est actif, oui bon si vous voulez, mais enfin je crois que tout le monde voit bien que lorsqu'à la fin d'une journée on est épuisé, ça nous demande pas d'investissement que de regarder une série, au contraire on va s'y abandonner et tout à fait volontiers et je suis personne pour juger ça. Donc la première chose qu'on peut dire à propos du rapport entre le temps de travail et le temps libre, c'est que finalement le travail et de manière générale l'écosystème numérique dans lequel on se trouve nous vide chaque jour de l'énergie et de l'attention disponible pour pratiquer des activités exigeantes, en philosophie aussi on dit autotéliques.
Autotéliques, voilà. Ah ouais. C'était donc ça ce mot.
Ouais, c'est qui sont elles-mêmes leurs propres fins, c'est-à-dire qu'on va pas pratiquer en vue d'autre chose.
Mais, on va en parler, voilà. C'est très important l'histoire de la fin en soi.
Et donc ça nous vide de cette énergie et de cette attention, et donc bien évidemment les seules activités qui nous seront ouvertes ou accessibles pendant notre temps libre, ce sont des activités qui ne vont pas réclamer cette énergie, cette attention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important de faire remarquer, c'est un point qu'on trouve chez un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gunther Anders, qui en 1956 écrit un livre magistral qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». Et Anders, il fait un constat et puis après il l'explique. Et il dit, écoutez, il y a un truc qui me semble bizarre dans la société contemporaine, c'est que j'ai l'impression que, enfin, je vois la société consumériste multiplier des activités de loisirs qui ont fondamentalement pour objectif de faire passer le temps ou de tuer le temps. Il dit, bon, c'est bizarre, parce que normalement, faire passer le temps, c'est plutôt la conséquence de l'activité et pas son but. Et voilà comment il l'explique, et c'est vraiment génial. En fait, il dit, le travail, ça nous habitue à être occupés. Et on pourrait dire pareil, hein, des technologies numériques, on est constamment occupé par autre chose. Donc, le travail nous habitue à être occupé. Si bien que, au moment où le travail cesse, et au moment où on doit nous-mêmes remplir notre temps, on a nous-mêmes la responsabilité individuelle de décider des activités qui vont remplir notre temps, en fait, on trouve plus les ressources et le soi nécessaires pour être à l'origine de ces activités. Et donc, en fait, ce que va dire Anders, c'est que on se tourne vers des activités qui vont, à notre place, se charger de rythmer notre temps, de le faire avancer. Et voilà, il appelle ça des passe-temps. Et juste, dernier point, mais ça, je pense qu'on va y revenir. Il y a un truc encore plus profond, je crois, sur la question du temps libre. C'est une révolution qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, avec la mise en place du système capitaliste et du salariat. Un truc...
Ah oui, on produit des jours de congé. Ouais. Alors ça, j'ai énormément aimé, parce que je n'y avais jamais réfléchi comme ça. Tant de jours de travail produisent 2,5 jours de congé.
Ouais, et ça c'est... Non,
mais
ça, c'est
donc, ça veut dire que tu travailles pour produire du temps libre.
Mais ça c'est phénoménal et c'est complètement inouï. Puis à un moment, bon, voilà, dans le livre, j'avais un peu la folie des grandeurs et je dis, voilà, rendez-vous compte de ça.
C'est toi qui l'as relevé, ça tu l'as retrouvé, parce que je trouvais ça brillant.
Je l'ai compris grâce à Guy Debord.
Wow. Voilà.
Il m'a mis sur le chemin, j'ai fait ma thèse sur Guy Debord.
Alors, donc, Guy Debord, t'en parles énormément. Donc, la société du spectacle, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui. C'est le centre de ton ouvrage aussi, quelque part. Hein.
Oui,
c'est
justement.
La société du divertissement.
Oui, et justement, parce que Debord m'a permis de comprendre que si on veut bien critiquer la société actuelle, et puis il faut le faire, bien de se placer du point de vue du temps et du temps libre. Et donc, ce que Debord m'a permis de comprendre, il le dit pas explicitement, mais c'est lui qui m'a permis de le comprendre, c'est qu'il y avait une révolution qui avait eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, un truc complètement inouï que je considère tout aussi important que les grandes découvertes, la découverte du feu, etc., etc. C'est cette idée qui nous semble naturelle, mais en fait qui est une pure construction sociale. Cette idée que, en fait, en travaillant, on produit du temps libre. À savoir que le temps libre dont on jouit, c'est un temps qu'on a libéré dans le labeur, c'est-à-dire un capital chronométrique, ça c'est Baudrillard qui le dit, qu'on va bien évidemment mettre à profit. Et on se dit,
profit en plus, hein.
Bah oui, évidemment.
Bien sûr.
Donc j'appelle ça du temps libéré. Donc pas temps libre, mais temps libéré, c'est-à-dire un temps qui est vraiment chèrement conquis ou arraché à l'activité productive. Et donc qui est pensé de manière seconde par rapport au temps de travail. Alors on se dit, bah oui, mais ça a toujours été le cas. Bah non, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que dans l'Antiquité, on se rend compte que le temps de travail avait une position seconde par rapport au temps libre. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, dans les théories philosophiques de l'Antiquité...
Non, mais ils foutaient rien, ils faisaient que des festins, ils bouffaient des raisins comme ça à poil, à un moment donné.
Et puis, c'était fondé sur l'esclavage aussi, enfin, tu vois. Donc,
ils avaient le temps quand même de s'amuser en esclavage.
Oui. En tout cas, ils faisaient la promotion de ce qu'en grec on appelle la scolé, et de ce qu'en latin on appelle l'otium, à savoir du loisir fécond. Et donc, l'idée fondamentale d'Aristote, par exemple, c'est que c'est uniquement dans le temps libre, c'est-à-dire un temps qui est libéré des nécessités de reproduction de la vie, que l'être humain a une chance de s'épanouir pleinement. Et donc, le temps de travail, par rapport au temps libre, était pensé comme un temps soustrait. C'est un temps qu'on ampute sur le temps libre. Et ça, on le voit dans l'étymologie de négos. Négos, c'est nec otium, la négation de l'otium. Voilà. Et en fait, à la fin du XVIIIe siècle, c'est ça qui est inouï, le rapport s'est inversé, mais c'est normal, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, on est rentré dans des sociétés fondées sur le travail. À la fin du XVIIIe siècle, on a commencé à penser le temps de travail comme occupant une position première, et donc le temps libre comme étant un temps libéré par le travail. Et ça, ça a tout changé. Mmh. Absolument tout changé.
Si on revient vraiment à l'addiction, qui est notre, notre thème ici...
En philosophie, on s'éloigne tout le temps, on prend des chemins.
Non, mais c'est ça qui est merveilleux. Ouais. Mais on retombe toujours. Tous les chemins mènent à l'addiction. Hein. tous. Et j'ai l'impression que moi, depuis que j'ai commencé ce podcast, en fait, j'ai découvert que j'invitais de plus en plus de philosophes parce que c'est un sujet philosophique et qu'il est là depuis la nuit des temps, cette histoire, ce questionnement sur le vide, sur le sens de la vie, parce qu'on a parlé aussi ensemble de Sébastien Boller. C'est hyper intéressant de voir que on l'a invité, Sébastien, un neuroscientifique, pour parler justement de la perte de sens de notre société et de ce qui se passe dans notre cerveau quand le cerveau ressent cette perte de sens. Pour faire très bref, il y a un truc qui s'allume, le striatum, et qui dit merde, il faut vite donner
le
du sens, donne du sens. Oui, pardon,
le
cortex singulaire. Donne du sens, donne du sens. Ah oui, ce verre, je connais. Ah oui, ces personnages de série, je connais. Et ça fait du bien.
Oui.
Alors quand moi j'allumais, moi j'ai passé énormément de temps sur des séries, énormément. Pour ma défense, j'ai passé énormément de temps sur des séries parce que j'étais en gueule de bois. Tu vois? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Quand il n'y avait pas de série, quand on était en gueule de bois, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai passé ma vie sur des séries, des journées entières dans le noir, volet fermé, parce que j'étais mal, quoi. Parce que j'étais en dépression et en gueule de bois. Ça, c'est un autre sujet. Le fait qu'on s'en serve pour les gueules de bois et le fait qu'on puisse aussi se défoncer la gueule pendant les séries. Moi, j'ai aussi beaucoup fait ça. J'aimais bien boire des coups pendant que je regardais des séries. Donc, ça incite. Le rythme sériel, il embarque le spectateur dans un engrenage narratif. Donc déjà, cet engrenage, pour moi, c'est ça l'addiction. Je vais te citer, elles font le portrait de société occidentale individualiste, livrée au frénétisme d'une consommation sans limite, dont elles sont la forme achevée. Il est difficile de parler de série sans considérer leur mode de consommation qui est de l'ordre du flux permanent, inépuisable, mais épuisant. Le spectateur par l'espèce de reconduite permanente du process et des promesses qui ne sont jamais tenues. C'est comme la drogue, exactement. C'est une promesse qui n'est jamais tenue, toujours repoussée à l'épisode suivant.
Exactement.
On croit toujours que ce truc-là, il va nous faire du bien, il va nous soigner, et en fait, on va comprendre, on va tout comprendre, et ça va nous faire du bien, et en fait, non. En plus, il y a cette libération de l'hormone de stress CRH qui, elle, c'est carrément qui explose au moment des cliffhangers. On peut pas s'empêcher, donc cliffhanger, c'est vas-y.
Oui, tu vois, ça m'évoque quelque chose. Le scénariste de Lost, qui s'appelle Carlton Kuse, je crois, en 2013, il disait que, en fait, il fabriquait ses épisodes comme des fabricants de chips. Pourquoi ? Parce que les fabricants de chips savent exactement quel produit additif mettre dans les chips pour te pousser à en consommer comme ça de manière continue. Et c'est vrai que les séries correspondent à ce schéma-là, puisque les séries sont conçues de telle manière que, en fait, à la fin de l'épisode, tu sois poussé à vouloir regarder l'épisode suivant. Et effectivement, ça, c'est un truc captologique, quoi. C'est-à-dire que pour ne pas regarder l'épisode, donc pour résister à la tentation,
il faudrait aller à la rencontre de
voilà. Et en fait, les séries, elles savonnent les pentes naturelles de notre cerveau. Elles ont ça, ouais, elles ont ça en commun avec les réseaux sociaux.
Toi aussi, enfin, tu inclus tout
moi,
ça
dedans. Moi, je tape à boulet rouge surtout.
Non, mais je veux dire, binger, c'est du contenu, tout simplement.
Oui, c'est du contenu, c'est du contenu. Après, justement, tu vois, par exemple, on pourrait croire que l'ergonomie d'une plateforme, elle est destinée à rendre l'expérience utilisateur la plus smooth possible. Mais en réalité, ne vous y trompez pas, lorsque Netflix vous prive de cette espèce de micro-décision consistant à cliquer pour avoir l'épisode suivant, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Justement savonner les pentes naturelles de votre cerveau, parce que cette micro-décision, en vous l'enlevant, va plutôt vous encourager à rester dans ce tunnel fictionnel. Et on sait très bien que c'est ça le piège de la série. C'est très courant de dire ça. Qui se commencerait une soirée en disant « Vas-y, je vais me faire un film de 3-4 heures ?» Pas possible. Voilà. En revanche, il y aura pas de problème à regarder 4 ou 5 épisodes binaires. Et en fait, on se dit, on essaie de mettre ça sur le même plan, mais c'est pas sur le même plan. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très fort dans les séries, c'est qu'elles vont nous mettre sur une autoroute qui va nous donner, en fait, l'illusion qu'il y a plus de portes, plus de voies de sortie. Mais on sait très bien que, au moment où la possibilité de sortir de l'autoroute arrive à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on va faire?
On sort à la prochaine.
Allez, on sort à la prochaine, et puis on sort à la prochaine, etc., etc.
Ça ressemble tellement au prochain trait.
Jusqu'à ce qu'on s'endorme.
Oui, prochain trait, encore un trait, encore un verre, encore une taf.
Ouais.
Dans la famille des binges, moi, on a tout aujourd'hui, hein. Je demande le binge watching. C'est le vrai problème, je pense, vraiment aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre truc qui se rajoute, c'est carrément, on est en speed watching maintenant. Donc moi, je le fais en audio. Pour écouter les messages audio de gens, parfois, j'avoue, c'est trop long. Et moi, j'espère que les gens m'accélèrent aussi parce que je laisse des messages qui durent des plombs. On accélère tout. Quand je vois qu'il me reste 3/4 d'heure de trajet et que j'ai un podcast d'une heure, hop, je le mets en 1,2. Moi, je le fais. Donc, j'ai arrêté de regarder des séries, mais je suis une malade de l'audio. Et donc là, on est sur des gens, moi, je les vois dans le métro, qui regardent des séries et puis je vois qu'ils accélèrent, ils veulent arriver au bout de l'épisode comme s'ils étaient obligés.
Oui. Ouais, c'est assez, franchement, c'est vraiment tragique ce truc, hein. C'est la preuve que vraiment tout s'accélère. Et ça permet de rendre compte d'un certain nombre de paradoxes, qui sont des paradoxes assez amusants, et notamment celui-là. Les sociétés européennes n'ont jamais eu autant de temps libre. En revanche, on n'a jamais autant eu l'impression de manquer de temps, ce qui est assez bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence très marquée et très paradoxale entre le temps libre objectif, donc celui qui est vraiment calculé, quoi, et le temps libre réel. Estimé.
Ah, ouais. Oui.
Et le temps libre estimé, souvent, il est estimé à moitié moins que le temps passé effectivement devant un écran. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Et pourquoi? Bah parce que c'est normal. Il y a tellement de propositions destinées à capter notre attention. Il y a tellement de choses à regarder, tellement de trucs à voir. Mais t'as pas vu cette série là? Mais elle est géniale. Elle a plein de penses. Et en fait, évidemment que dans des sociétés qui indexent le plaisir, la réussite sur le nombre d'expériences vécues, il y a cette peur de manquer constamment et qui va faire qu'effectivement, quand on a un contenu, on va dire, ok, vas-y, je vais regarder vite, comme ça, je vais pouvoir passer à un autre contenu.
Là, on rentre dans le FOMO aussi, peur de pas pouvoir tout voir, tout faire. Mais ça, c'est humain. Mais je veux dire, à la limite, ayons-le pour les choses de la vie. Je ne vais pas pouvoir aller voir assez de pays, je ne vais pas voir assez d'expos, je ne vais pas lire assez de livres. C'est ça le souci aussi, le nivellement par le bas. C'est non seulement il y a ce FOMO, cette peur de manquer quelque chose, mais en plus de manquer quelque chose qui est vide.
Oui, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui disparaît là-dedans? La possibilité du vide.
Mais parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est l'exigence. On n'est plus exigeant face au contenu. On est tellement, c'est le nivellement par le bas. On est habitué à avoir des choses d'une piètre qualité et surtout intelligence, quoi. Je ne sais pas que finalement, c'est la récompense immédiate et on va à la solution de facilité.
Voilà, c'est ça. Il faut bien dire aux auditeurs et auditrices que là encore, il s'agit pas de responsabilité individuelle. Si on se tourne vers des contenus qui sont des contenus qui vont plutôt favoriser la distraction, la dispersion de l'attention, plutôt que des contenus plus riches, c'est précisément parce que ces petits contenus, ces petits reels, ces petites choses vont activer artificiellement le circuit de la récompense, donc vont produire des shoots de dopamine, et on sait très bien que quand un shoot de dopamine est produit, on va avoir tendance à vouloir le répéter. Plus on le répète, plus ça s'ancre dans nos habitudes, c'est-à-dire plus le seuil,
le seuil de tolérance, on a besoin d'en faire plus. Donc, c'est exactement comme le produit.
Mais c'est franchement, c'est fou. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, et je pose la question, si quelqu'un peut me répondre à ça. Tu vois, les images subliminales, elles ont été interdites. Donc l'image subliminale, si je me trompe pas, c'est donc la rétine est capable de voir 24 images secondes. L'image subliminale, ce sera la 25e image que en fait tu vas pas tout à fait voir, mais qui va quand même s'enregistrer dans ton cerveau, dans ta conscience, dans ta mémoire, et qui va éventuellement générer des pulsions d'achat. Donc ça a été testé. Si tu mets une image subliminale de Coca-Cola pendant un film ou des pubs, les gens vont acheter plus de Coca-Cola. Et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire.
Les gens faisaient ça avant. C'est ça qui est fou.
Et pourtant, les techniques captologiques.
Alors ça existe, ça, ces gens-là.
Les algorithmes.
C'est un métier, captologue.
Ouais, on va y revenir. Mais en tout cas, les techniques captologiques qui génèrent des comportements addictifs par une cartographie des failles du cerveau, ça, c'est autorisé. Je ne comprends pas pourquoi c'est autorisé. Ça ne devrait pas être autorisé. C'est-à-dire que concrètement, il y a des types dans des laboratoires, notamment à Stanford, qui sont extrêmement bien rémunérés, qui sont extrêmement intelligents et dont le job consiste très concrètement à identifier les failles de ton cerveau, tous tes biais cognitifs, pour te gaver de contenu comme une noix, quoi. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça, et c'est autorisé par le législateur. Enfin, à ce moment-là, autoriser les images subliminales, c'est la grande fête du slip. Hein.
Je ne vais pas y répondre, mais je pense qu'il y a autant de questions encore plus graves que ça par rapport à l'environnement. Entre tout ce qu'on sait et qu'on laisse faire, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Je pense qu'en fait, il y a une responsabilité individuelle. J'aime beaucoup la phrase de Gandhi qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je me cantonne à ça parce qu'en fait, c'est trop compliqué et j'ai pas envie de me battre contre des moulins. L'économie de l'attention, ce qui est bien dans ce livre et dans ce que tu nous racontes, c'est qu'en fait, ça permet à tout le monde de prendre conscience qu'on est en train de se faire manipuler. Comme quand d'un coup, j'ai réalisé que j'en avais marre d'aller au tabac m'acheter mes clubs. Tiens, je me fais manipuler parce que dans les films aussi, le lobby du tabac, il y avait énormément de gens qui... Voilà, on se fait manipuler.
Oui.
Et quand on lit un livre comme le tien, et comme d'autres livres de philosophie, la philosophie, pour moi, c'est vraiment un réveil des consciences qui n'est pas spirituel, c'est-à-dire que les gens peuvent pas dire « Ah, regardez, c'est ésotérique ». Non, non, là, c'est concret. Regardez juste. Vos conditionnements ne sont plus libres, et donc c'est Spinoza, on retombe sur « Vous croyez être libre, mais vous ne connaissez pas les causes qui vous déterminent ».
Exactement, c'est ça.
Donc on est foutu. Ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est de chacun s'éveiller un petit peu à se dire « Attends, mais c'est vrai, et si juste ça pouvait faire ça, je trouve que c'est déjà génial ». Par rapport aux séries, moi je pense que il y a un truc que tu dis, soi-disant, le shoot de dopamine très rapide et tout, mais moi j'ai des shoots de dopamine avec des choses intéressantes et intelligentes comme la philosophie. Et je pense que les gens ne se doutent pas. Et ça, c'est important aussi d'expliquer que quand on comprend des choses, quand on apprend des choses, c'est aussi hyper, hyper jouissif.
C'est très jouissif. Et moi, ce que ça me pousse à dire, c'est que, enfin, tout simplement, et je suis évidemment pas le seul à le dire, André Gorz le dit, Baudrillard le dit, Debord le dit, Dominique Mena le dit, Jean-Miguel Pire le dit, enfin, il y a tout un tas d'auteurs qui le disent. C'est l'idée que le problème, c'est que le temps libre, c'est finalement une idée assez neuve en Europe. C'est-à-dire que bon, le temps libre en France, c'est quoi? C'est depuis l'instauration des congés payés, l'augmentation de la durée de ces congés après la libération, la loi de 98. Bon, donc c'est quelque chose de neuf. Et en fait, le temps libre, on n'a tout simplement pas encore appris à le civiliser. Civiliser, c'est-à-dire à lui donner en fait une forme culturelle épanouissante et enrichissante. Et c'est pour ça que dans notre temps libre, on est les proies d'industries culturelles et numériques puissantes qui vont faire à notre place le travail qu'on devrait faire. Et bien évidemment, c'est impossible ou c'est très difficile de résister à une tentation
donc,
pareille.
Tu donc, déculpabilisons-nous aussi, parce que c'est vrai que, encore une fois, c'est trop grand pour nous, la machine est trop grande pour nous. Mais il y a quelque chose d'important, c'est le flow. Manfred Spitzer, donc neuroscientifique allemand, tu le dis dans ton ouvrage, dans son ouvrage, c'est Les ravages des écrans, tu en parles, le flow nous conduit donc à apprendre à jouer de la musique, à dessiner, à faire un travail manuel, donc c'est extrêmement bénéfique, le flow. Moi, je le vis dans le yoga, par exemple, ou du sport, et quelle que soit l'activité menée, à y prendre du plaisir, et ce plaisir n'est pas une fin en soi pure et simple. Donc, ni le passe-temps, ni le plaisir est une fin en soi. En revanche, il contribue au développement physique et psychique. C'est ça.
Oui, en fait...
C'est ça que ne fait pas la série.
Voilà, ce qu'il appelle le flow, c'est une expérience qu'on peut toutes et tous faire. C'est une expérience dans laquelle on pratique une activité et on sent plus le temps passer.
Incroyable. Voilà. Moi, j'appelle ça toucher par la grâce. Il y a des moments comme ça, on voit pas le temps passer.
Addictif au sens le plus noble du terme. Et donc, pourquoi on appelle ça le flow? Parce que maintenant, on sait que les zones du cerveau qui sont responsables de la référentialité, l'autoréférentialité, elles sont un peu désactivées. Donc, on pense moins à soi et on est complètement plongé dans une activité. Et effectivement, Manfred Spitzer dit, c'est pas du tout un mal, au contraire, ça accompagne les activités qui exigent un haut niveau de concentration. Le problème des séries, c'est qu'elles vont aussi nous mettre dans un flow, mais on va sortir de ce flow avec un sentiment, c'est pour ça qu'il y a vraiment des trucs avec les addictions, quoi. On va sortir de ce flow avec un sentiment, un vide plus grand, un sentiment de culpabilité, merde, qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps-là? Et donc, moi, je t'avoue aussi, il y a un moment, parce que je suis comme tout le monde, à un moment, dans mon temps libre, je me suis dit, là, t'es en train de faire n'importe quoi, tu regardes des séries, tu regardes en plus toujours les mêmes, enfin voilà. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je me mette à faire des activités qui vont me permettre un petit peu de débrancher mon cerveau, aussi, éviter de tout le temps aussi de faire de la philo. Et donc, oui, maintenant, je me suis mis aux arts de la main, aux arts textile. Donc, je fais beaucoup de tricot. Maintenant, je me suis mis à la couture aussi.
Incroyable.
Et parce que justement, le tricot, c'est vraiment quelque chose qui te met donc dans le flow. Déjà, moi, c'est une activité qui ne me replie pas sur la sphère privée parce que c'est une activité que je pratique à l'extérieur, au café. Enfin, là, c'est un mode de sociabilité parce que forcément, un jeune mec qui fait du tricot, enfin, je suis jeune, mais un jeune mec qui fait du tricot, ça interpelle. Ça permet de faire des cadeaux trop stylés à ses amis parce que voilà, c'est un cadeau individualisé. T'as choisi la laine avec cette personne. Jamais, une série ne pourra te donner un sentiment d'accomplissement tel. Enfin, je veux dire, le moment où tu finis ton pull,
j'ai fini ton livre, j'ai eu un sentiment d'accomplissement tel.
C'est trop sympa, ça.
Non, mais ça m'arrive avec d'autres livres aussi. Mais je veux dire, c'est vraiment pour expliquer. Mais il faut voir comment il est totalement défoncé. Je l'ai défoncé. Il est incroyable.
C'est une manière de le respecter. Moi aussi, je fais ça avec les livres.
Mais j'ai besoin parce que je reprends souvent mes livres pour regarder. Mais je crois que c'est ça. Tu viens de toucher au point central. C'est la différence entre quelque chose qui est nocif, donc une addiction, quelque chose qu'on fait et qui nous procure plus de plaisir, plus de joie et qui nous laisse plus vide encore et plus coupable qu'avant, et ben c'est ça l'addiction. Et la différence, c'est justement ce sentiment d'accomplissement à la fin d'avoir fait une tâche. Est-ce que quand j'ai bu une bouteille de blanc, j'ai l'impression de m'être accompli? Je ne crois pas. Après, on peut pratiquer aussi du tricot pendant qu'on picole, hein. Tout est possible.
Ouais, mais on va rater des mailles. Non, mais c'est vrai que l'addiction, voilà, on pourrait, on pourrait aussi, voilà, la définir comme une activité qui nous fait plus de mal qu'elle ne nous fait de bien.
Voilà.
Parce que, voilà. Enfin, par conséquent, ces activités qui, justement, vont plutôt être respectueuses vis-à-vis de notre attention, qui vont pas encourager des modes de consommation individualistes, qui vont nous sortir de la sphère privée, qui aussi permettent de résister au consumérisme. Mm-hmm. Parce que, enfin, tu vois, quand t'achètes un, quand tu tricotes un pull pour quelqu'un, bon, déjà, c'est délirant le nombre d'heures. Et puis, bah, c'est génial comme cadeau parce que t'es pas passé par Shine,
Shein,
tous ces trucs là.
Non, non, c'est ça, t'as pas reçu un colis qui a coûté je sais pas combien à ton empreinte carbone. Et puis, c'est vrai que je viens de fêter mon anniversaire et j'ai une amie très proche, elle se reconnaîtra, qui a fabriqué son cadeau. Ah, ouais. Elle est incroyable, voilà.
Ouais, ça a la gueule,
et je lui dis, quand les gens vont mal, par exemple, si elle va mal, je lui dis, reconnecte-toi à la personne qui aimait faire des cadeaux avec Manuel, à cette personne qui aimait parler aux arbres, celle qu'on a oubliée, parce que tout ça, on aimait faire ça. Moi, j'ai pleuré tout à l'heure dans le métro en regardant une enfant qui était assise par terre et qui dessinait sur le siège, et je me disais, elle en a rien à foutre de rien, et on était tous comme ça, et elle créait quelque chose à l'instant même. Je crois qu'on est créateur de sa vie, et qu'à chaque instant, tu peux créer quelque chose de magique.
Oui, et tu peux, c'est ce que je préconise, c'est ce qu'on préconise aussi avec l'association Lève les yeux. Tu peux chercher à créer dans ta vie des moments, des îlots de décélération, vraiment des moments où voilà, t'es injoignable, ton attention pourra pas être captée par des stimulations de toutes sortes. Et pourquoi est-ce que c'est bon? Bah déjà parce que ça te permet de récupérer de l'attention, mais aussi parce que cette petite fille dans le métro ou au moment où tu tricotes, ton imaginaire pas malmené, enfin tu vois, il est pas capté, il est pas structuré par ces industries puissantes. Et si tu permets, parce que j'en parle dans le livre, il y a un truc qui m'avait vraiment marqué dans la lecture de Madame Bovary de Flaubert.
Et c'est mon livre culte.
Moi aussi, je le relis une fois par an. En fait, quand on m'avait présenté Madame Bovary au lycée, on disait, en fait, le Bovary, c'est une maladie de l'imagination. En fait, on dit, Madame Bovary, elle est triste parce qu'elle a trop d'imagination. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout le sens du livre. En fait, ce que dit Flaubert, et je vais retomber sur mes pieds avec la question du tricot et de la petite fille dans le métro, ce que dit Flaubert, en fait, c'est que, en fait, ce qui rend Emma si triste, c'est qu'elle a lu trop de romans à l'eau de rose, et donc elle a un imaginaire qui est trop rigide, qui est trop standardisé, et donc elle est incapable de fantasmer le réel, voilà, autrement que par cet imaginaire. Donc l'immense leçon de Flaubert, c'est qu'en fait, plus ton imaginaire est rigide, saturé, standardisé, et aujourd'hui, donc par ces industries-là, moins ton imagination fonctionne. Donc il y a un rapport inversement proportionnel, à nouveau, entre l'imaginaire et l'imagination.
Oui, mais ce qui est complètement fou par rapport à... Même dans ton livre, tu parles des archi-séries, les choses...
L'archi-spectacle.
Ouais, l'archi-spectacle, c'est-à-dire la série au carré, c'est celui qui pense qu'il est en train de dénoncer un truc, mais il est en plein dedans. Ouais. Mais là, Flaubert, il nous fait la même chose, parce qu'il est en train... Moi, l'archétype d'Emma, je m'en suis servi. C'était mon récit, et moi, j'étais Emma Bovary, et moi, j'étais neurasthénique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, en voulant dénoncer
quelque
chose... Il fallait
lire les calculs du Dr March aussi, c'est ça.
Mais j'adore, de toute façon, j'aime quand ça se mord la queue, moi.
Et donc, c'est bien d'avoir des activités dans lesquelles l'imaginaire a le temps de se constituer, de se structurer, et où on va pas être gavé d'images qui vont finir par ne nous faire voir la réalité que par le prisme d'un certain imaginaire marchand.
C'est ça, exactement, cet imaginaire marchand. Et ce qui aussi, comme on est quand même en plein dans un podcast qui est dans la solution plus que dans le problème, c'est aussi, ce sont des solutions, les activités manuelles, énormément d'hôpitaux, de cures, d'aide à l'addiction, passent par les animaux, par les activités manuelles dans des fermes, les compagnons du devoir, tout ça, ce sont des moyens de sortir de son cerveau d'addict, entre guillemets. Donc ça, c'est important à soulever aussi, c'est souvent par ça que l'on passe pour s'en sortir. Tu fais souvent référence au mythe de Sisyphe de Camus, que j'ai donc lu en même temps que ton livre, relu, puisque je n'avais rien compris il y a fort longtemps. La littérature de l'absurde, donc je viens de réaliser ce que c'est, puisque en fait je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai dans le ventre, c'est cette impression que la vie est absurde et qu'il va falloir faire avec. Et ça commence par une histoire de suicide d'ailleurs, il parle beaucoup du suicidé. Ayant moi-même eu recours à cette technique une fois dans ma vie, je sais ce que c'est que d'avoir l'impression, c'est pas que la mort m'a mais c'est que la vie n'a pas de sens et c'est absurde et je veux absolument qu'elle en ait un. En quoi les séries nous aident à soi-disant défaire cet absurde.
Oui, voilà, pour revenir sur le mythe de Sisyphe, effectivement, t'as raison, hein, c'est l'ouverture, enfin, est punchy.
Il dit,
il n'existe qu'une seule question philosophique véritablement digne d'être posée, c'est celle du suicide.
J'adore, voilà. J'ai beaucoup aimé.
Et en fait, ce que Camus appelle l'absurde, en fait, il dit pas que le réel est absurde. En fait, ce qu'il appelle l'absurde, c'est la rencontre entre le silence de la réalité, c'est-à-dire le fait que la réalité n'offre pas fondamentalement de sens, et notre besoin de sens. Et en fait, l'absurde, c'est la rencontre des deux. C'est-à-dire qu'on a, en fait, à un moment, il dit, voilà, tout cela doit bien avoir un sens, donc je crie, et le monde me répond par un silence déraisonnable. Et donc, tout le mythe de Sisyphe, ça va être, de Camus, c'est de dire, OK, une fois qu'on se maintient dans l'absurde, qu'on accepte qu'on a ce besoin de sens viscéral, mais que le monde nous répondra toujours de manière silencieuse, comment est-ce qu'on vit? Et à la fin du mythe de Sisyphe, spoiler, on s'en fiche, Camus il va dire quelque chose qui semble très nul, enfin très nul, c'est-à-dire très, enfin bateau, mais en fait c'est ultra puissant quand tu lis tout le livre. En fait, il dit bon voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est-à-dire quelle éthique on peut bâtir sur l'absurde. Et ben tout simplement, il n'y a pas de plus grande joie que de sentir et de se sentir sur cette terre.
Alors, il dit que Sisyphe est heureux, hein.
Ouais, Sisyphe est heureux, ouais. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Sisyphe, faut pas oublier que ce mec-là, il monte un rocher sur une colline et puis je sais pas, le rocher redescend, il doit le remonter.
Ouais, puis
c'est un peu notre fardeau,
regarde,
c'est la croix.
Puis il regarde pas de série en le faisant.
Ouais,
enfin, tu vois,
ouais,
il est avec son rocher. Donc pour revenir sur la question des séries, c'est que effectivement, je crois que quand tu fais de la philosophie, enfin moi j'ai plutôt tendance à penser que le réel est dépourvu de signification et que pour nous préserver du vertige de l'insignifiance de la réalité, on va produire du sens, produire des doubles au sens de Clément Rosset, etc.
Ah oui.
Et je crois que les séries, parmi les choses qu'on peut leur reprocher, mais il n'y a pas que les séries qui font ça, je pense que le problème des séries, justement parce qu'elles sont narratives, c'est qu'elles vont avoir tendance à venir projeter sur une réalité qui est dépourvue de sens des significations un petit peu bateau, pas terrible, donc contribuer à mettre un sens à une réalité qui n'en offre guère, et donc ça nous pousse à éviter l'absurde. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de lucidité, d'émancipation, de sagesse aussi à reconnaître que en fait on vit non seulement dans une réalité, mais peut-être plus fondamentalement dans des sociétés qui sont dépourvues de signification. Enfin, la rationalité économique, c'est une non-rationalité. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, ça conduit à faire des choses complètement absurdes. Et voilà, peut-être qu'il faut se maintenir dans l'absurde et
oui. Et, oui, mais en fait, il faut accepter.
Les vous aide pas.
Oui,
ouais.
Il faut accepter qu'on a besoin de sens et qu'il y en a pas.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Et après, moi, j'ai renoncé un peu à donner un sens à la vie globale. Déjà, d'essayer de donner un sens à mes 24 heures, c'est hyper intéressant. C'est une politique des alcooliques anonymes. Hein.
Oui.
C'est le sens de cette journée, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de te rencontrer, de faire ce podcast. On va bientôt le terminer, malheureusement. C'est assez horrible pour moi, parce que comme une addict, j'ai jamais envie de quitter la fête. Hein.
C'est vrai qu'on d'ailleurs, aurait bien continué.
Ouais, moi, j'ai pas fini. J'en ai pas du tout fini, parce que déjà, il y a cette histoire. Les addicts aux séries, je l'ai été, ne veulent pas quitter la fête, eux non plus. Donc, ils continuent derrière à vouloir non seulement échanger avec d'autres gens et te dire qu'il faut absolument que tu regardes cette série, échanger, en parler. C'est un sujet de discussion dans tous les cafés, avec un bon verre de vin. On parle des séries qu'on a vues. Donc ça, c'est vraiment un sujet passionnant. Moi, j'avoue que je me suis retirée de tout ça. Mais surtout, il y a des forums et des endroits où les gens vont dire « Mais t'as vu, il y a un sens caché. » Ils veulent penser que le créateur de Lost, c'est Dieu.
Mmh. Oui, il y a ça. La remarque que ça me suggère, c'est que il faut vraiment prendre toute la mesure de la situation dans laquelle on se trouve vis-à-vis des technologies numériques. Donc là, on parle de la série, mais ce serait pareil pour le smartphone. En fait, tu vois que désormais, le fait de ne pas disposer de tel ou tel outil ou le fait de ne pas pratiquer tel divertissement culturel va avoir un effet désastreux, ça va te marginaliser. Donc tu vas être, de fait, coupé des conversations qui vont tourner autour des séries. Et terriblement, parce que c'est pire avec les smartphones, si t'as pas de smartphone en sixième, alors que c'est ultra dangereux pour le développement de l'enfant, tu vas être marginalisé. Et personne n'a envie de marginaliser son enfant.
C'est vrai.
Et donc,
hein,
voilà,
on lui achète pour qu'il soit accepté.
Bah ouais,
hein.
Pour faire comme les copains et les copines.
On est vraiment, vraiment, vraiment foutu pour ça.
Bah ouais, c'est pour ça que, avec Lève les yeux, on dit qu'en fait, on n'y arrivera pas. Tant que, donc là je parle plutôt du smartphone hein, que des séries, mais on n'y arrivera pas tant que le législateur viendra pas en aide aux parents et donc n'interdira pas l'usage de smartphone.
On a besoin d'aide.
Tant qu'on continuera à mettre les parents face à ce choix, protéger mon enfant ou le marginaliser. Voilà. Parce que pour les séries, c'est un peu plus facile, bon, à la rigueur.
Oui, mais ils sont obligés de regarder Squid Game aussi, hein.
Ouais.
Je sais même pas comment on dit.
Squid Game.
Ouais. C'est vraiment, j'ai vu hein, les jeux vidéo. les séries, les youtubeurs aussi, c'est-à-dire qu'il doit connaître certains influenceurs, c'est très important, parce que la phrase aujourd'hui, c'est « t'as la ref ».
T'as la ref.
Est-ce que t'as la ref ? Si t'as pas la ref, tu dégages, en fait. Ouais. C'est un truc de fou.
T'es pas dans le game.
On va parler plutôt de solutions. À la fin de ton livre, quand même, t'as un petit chapitre là-dessus qui dit que d'abord, il y en a pas beaucoup non plus, mais il y a d'abord d'essayer de se sevrer. Donc, c'est une solution qui saute aux yeux. Il faut apprendre à vivre ensemble et pourquoi pas rejoindre un collectif numérique comme, n'est-ce pas,
ouais, collectif de lutte contre le numérique. Ouais.
Exactement. Il y a la solution des 4 pas qu'on a cité aussi. C'est vrai, si déjà on peut avoir conscience que dire, ah, mais là, je veux pas me servir aussi du temps d'écran que j'ai fait. Je veux pas me servir de mon téléphone pour me dire que j'ai fait trop de téléphone, en
et
fait.
Je te félicite.
Ah oui, c'est l'enfer.
On va quand même pas donner à la technologie le soin de résoudre les problèmes qu'elle-même crée.
Genre, elle va me dire que t'as fait trop de temps, elle. Non, quand même pas.
Oui.
Est-ce que, quand même, il y a quelque chose de positif dans les séries? Alors, outre le fait qu'elles offrent un sujet passionnant pour ton livre, quand même, parce que mine de rien, ça sert à philosopher, elles sont un reflet de la société, tu dis, et alors, on s'en fout. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de prendre un miroir et de dire, bah oui, elles sont en reflet, et alors? Mais quand même, on a tous besoin de se regarder en face. Ça nous permet de voir des choses en face ou pas du tout?
Oui, en fait, en termes de contenu, moi, je veux pas vraiment une critique des séries. Il y a des séries qui sont excellentissimes, de véritables chefs-d'œuvre.
Voilà,
The Wire, je pense que c'est une série absolument incroyable. Mais voilà, pas simplement d'un point de vue critique ou cognitif, aussi d'un point de vue esthétique. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des plans marquants dans The Wire. Et ça, on retrouve moins dans les séries. Mm-hmm. Je trouve que qui retiendra un plan d'une série, peut-être dans The Wire, mais sinon, bon. Donc, alors effectivement, les séries, elles permettent de faire tout un tas de choses. Il y en a certaines qui sont très bonnes. Simplement, ce que je constate, c'est que quand les gens disent non, mais quand même, les séries, ça nous donne à penser. Franchement, parce que c'est par là aussi qu'elles sont si séduisantes. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de perdre ton temps en regardant une série comme tu perds ton temps en scrollant. Enfin, tu vois des trucs sur Instagram.
Mais ça, c'est ta bonne conscience.
Parce que t'as l'impression que ça t'instruit.
Oui, bien voilà. Sûr. Et t'as pas mal de philosophes d'ailleurs que tu combats un petit peu aussi sur ce sujet-là. Il y a pas mal de personnes.
Oui, il y a des philosophes combats là-dessus.
Font l'apologie des séries.
Et l'argument que je donne, c'est l'institut du pifomètre. Moi, j'ai fait une enquête sociologique individuelle, mais quand même, j'ai parlé à des gens et genre, des gens qui me disaient non, mais là, la série vraiment, ça m'a permis de comprendre des choses, m'instruire. Et souvent, ce qui revenait, c'était Black Mirror. Je disais alors, Black Mirror, qu'est-ce que ça t'a appris? Donc j'ai pas fait le prof, j'essaie de le faire un peu moins frontal comme ça. Bah regarde, franchement, on est trop sur notre téléphone et puis ça crée des hiérarchies sociales. Et t'es là, non mais attends, excuse-moi, mais dans le métro, tu le verras très bien ça. Donc c'est vrai que les séries, elles sont un reflet des sociétés dans lesquelles on se trouve, mais un miroir, ça nous instruit, mais ça nous instruit simplement dans la mesure du reflet qu'il nous propose.
Ça ne nous apporte pas de solution, surtout.
Bah pas vraiment. Et puis de toute façon, de dire que les séries sont critiques, ça j'en doute, parce que elles vont être critiques à l'égard d'un certain nombre de choses, mais une série qui véritablement serait critique à l'égard de quoi il faudrait être critique, à savoir du système marchand qui nous aliène toujours un peu plus, ça, j'en connais pas, et donc invitation aux auditeurs et auditrices, si vous en connaissez une qui véritablement propose une critique radicale de la société spectaculaire marchande, je la veux bien.
C'est peut-être pas le but de la série, enfin c'est peut-être pas le rôle de la série, mais moi j'ai une question, c'est par exemple on me propose d'écrire une série autour de la sobriété, et c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans le sens où mettre en avant qu'est-ce que la sobriété, comme je le fais dans ce podcast, c'est-à-dire d'expliquer que c'est pas à partir du moment où on arrête de consommer que c'est derrière nous et qu'il y a tout un travail à faire derrière, notamment avec la philosophie, la psychologie et puis tout le reste. Une série qui aiderait des gens, je veux pas dire que la mienne va être géniale, mais je veux dire, il y a bien des séries qui sont là pour aider.
Oui, et je ne le nie pas. Moi, ce à quoi je m'attaque, c'est plutôt la consommation compulsive de séries.
Oui, voilà, c'est ça. C'est le binge-watching des séries, le problème.
Mais bien sûr qu'il y a des séries, j'en suis certain, qui pourraient aider, nous permettre de comprendre un certain nombre de choses.
Y a aussi une addiction très forte aussi aux personnages. Moi, je l'ai eu énormément. Moi, j'ai regardé beaucoup de séries. Moi, ils m'attrapent, pas par l'arche narrative du tout. Enfin, moi, j'ai pas je m'en fous de savoir ce qui va se passer, mais je suis addict au personnage.
Ouais, je suis d'accord.
Et donc, j'ai une émotion dans This Is Us qui est un peu à l'eau de rose. Et on s'identifie à un personnage, c'est lui, c'est moi. Donc, lui, c'est exactement moi. Ouais. Ou alors, Shameless, par exemple, je ne pouvais plus me passer de Lip. Voilà, Team Lip, donc c'est Jeremy Allen White. Aujourd'hui, on l'a vu en caleçon dans une pub Calvin Klein.
Ah, super, j'ai pas vu, moi.
Il est tellement beau.
Mais
je suis amoureuse de lui depuis ça. Et pour moi, ce personnage, c'est Lip, c'est plus Jeremy Allen White.
Mm-hmm. Oui, les personnages créent des formes d'attachement très fortes.
On en souffre hein, quand la série se finit.
Oui.
On perd des amis.
Oui, oui. C'est, alors justement, c'est une des thèses de Sandra Logier qui dit que finalement, les séries, c'est quand même super bien parce que ça nous prépare l'expérience du deuil. Et je suis là, genre, ok, c'est vrai que moi, je suis
Achète
triste.
Achète-toi un chien, merde.
Je suis triste quand, non, mais je suis triste quand un personnage meurt, mais de là à dire que ça me prépare l'expérience du deuil. En revanche, c'est vrai qu'il y a un attachement qui passe par les personnages. Et je pense que c'est aussi une des forces de la série. C'est-à-dire que au moment où tout s'effondre autour de nous, au moment où, enfin voilà, on est confronté à des guerres, des catastrophes, des trucs et des machins, la série, elle propose aussi un environnement familier, c'est-à-dire qu'on va retrouver des personnages oui. auxquels on est attaché, et donc elle apporte quelque chose de confortable. Mais à nouveau, pour comprendre ce besoin de confort, il faut analyser les causes qui sont à l'origine de ce besoin, et donc peut-être passer par la philosophie.
C'est exactement ce qu'on fait ici avec l'addiction. Quel est l'intérêt de critiquer tel ou tel produit? On n'est pas ici pour dire « Oh, la cocaïne, c'est pas bien !» C'est pourquoi est-ce qu'on la prend? Qu'est-ce qu'elle vient réparer? Et puis, qu'est-ce que le vide aujourd'hui? Il y a une phrase, je ne sais pas si elle est de toi ou de quelqu'un d'autre, mais je l'ai prise dans ton livre, je ne me rappelle plus, elle est notée là, donc je vais la dire. Pour moi, c'est une définition du vide assez actuelle. « Peut-être est-il devenu trop difficile de faire passer le temps soi-même ou de concevoir le vide positivement, autrement que comme l'envers du plein ?»
Oui, c'est de moi. Ouais.
Et ben voilà, pour moi, se guérir d'une addiction, c'est réussir à considérer le vide positivement.
Tout à fait d'accord. Ouais, ouais. Ben moi, franchement, je pense qu'il y a de ça. C'est une idée qui m'était venue en lisant Jacques Kerouac.
Ah oui.
Parce que, enfin, tu vois, Sur la route, c'est un roman du plein. Donc il y a plein d'expériences, du jazz, de la drogue, etc., etc. Et puis il cherche, enfin, vraiment à vivre des expériences, enfin, extrêmement fortes. Donc il y a une sorte de philosophie du plein qui se dessine dans Sur la route. Et puis arrivent les clochards célestes, donc le Holy Hobos qui suit, donc aussi autobiographique. Et là, Kerouac se fait initier au zen. Et les clochards célestes, c'est davantage un roman du vide et de la positivité du vide. C'est-à-dire qu'il va comprendre en fait que pour atteindre ce soi qu'il a aussi cherché à atteindre dans Sur la route, il va plutôt passer en fait par des formes de d'acceptation de la positivité du vide. Il y a un moment, il va aller dans une forêt, et il va essayer d'atteindre le néant Nirvana, déjà dans la conscience,
fameux, ouais.
Et puis ensuite il va s'isoler dans une cabane en fait à la fin. Et je pense que ça, moi j'aimerais bien travailler dessus, mais bon c'est lourd comme catégorie. Je pense que si on a tant de mal à faire face au vide, c'est justement qu'on le pense comme un plein qui a été vidé. Voilà. Ça, c'est évident chez Pascal.
C'est le ciel.
Ouais.
Les nuages, les fameux nuages, c'est le Oh merde, je l'ai plus.
Le ciel. Bah, je sais pas, en tout cas.
Non, mais je veux dire, oui, le silence, pardon. C'est le fameux silence. C'est-à-dire, quand il y a du bruit, ce n'est que le silence qui a été rempli de bruit. Mais le silence est toujours là, c'est ça? Ou là,
ouais,
là, je suis pensée, en train de m'embrouiller,
bah c'est,
de
oui, c'est,
ouf.
C'est-à-dire que c'est pensé de manière privative. C'est-à-dire
voilà,
que
de
le,
manière.
Le,
ah
le vide, c'est le non plein.
Exactement.
Mais peut-être que le vide ne gagne pas à être pensé secondairement par rapport au plein. Parce que forcément, quand tu penses le vide comme un plein qui a été vidé, tu le penses comme devant être rempli.
Exactement. Voilà. C'était tout l'inverse que je voulais dire. Le vide existe intrinsèquement, en fait.
Ouais.
Et il n'a pas besoin d'être rempli.
Il est peut-être premier, comme le temps libre par rapport au temps de travail.
Ah voilà, finissons voilà. Comme ça. Le vide est premier. C'est la première fois que j'accepte le vide. Merci beaucoup, Bertrand.
Merci beaucoup, Karen. C'est un vrai plaisir d'avoir cette conversation avec toi.
Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.